écoutez Dérive, les secrets de la mafia médicale. Épisode 1, l'autre gang.
Alors, on vient d'entendre la musique de présentation, en fait, l'intro de cette balado, de cette série de balados qui s'appelle Dérive, qui est présentée par Olivier Bernard. En fait, vous connaissez le pharmacien. Olivier Bernard a créé cette espèce d'alter ego là, pour faire ce qu'on appelle, et ce qui est très important dans notre monde de nos jours, de la vulgarisation scientifique. Alors, il est pharmacien, il détient une maîtrise en génétique moléculaire. Il a travaillé quelques années dans l'industrie pharmaceutique et il se dit fasciné et exaspéré par les mythes scientifiques et médicaux. Et c'est en fait le thème de cette série de balados et c'est la raison pour laquelle je l'ai invité à l'émission. Bienvenue à l'émission, Olivier.
Ben merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là.
Ben écoute, d'abord, nous, on est une émission où on est spécialisé pour les questions LGBT et on a toujours l'habitude, quand on a un nouvel ou une nouvelle invitée, de demander quel accord et quel pronom tu utilises. Le masculin?
Moi, c'est il, donc il, lui.
D'accord. Ben commençons. On a entendu la petite musique de la petite introduction là, de Dérive. C'est quoi cette série de balados?
Oui, ben en fait, Dérive, moi, j'ai créé ça. À la base, je ne savais même pas que ce serait une série, là, pour être tout à fait honnête. Moi, quand j'ai fait la première saison, qui s'appelait « Le rituel de sudation », c'était à propos d'une histoire qui m'obsédait depuis des années, donc l'histoire de Chantal Lavigne, une jeune femme québécoise qui est décédée dans un rituel de sudation extrême là, qui avait duré pendant des heures. Et puis, moi, j'étais toujours resté avec cette idée-là en tête. Ça me travaillait vraiment beaucoup. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ben pourquoi est-ce que je reviens pas sur cette histoire-là? Essayer de comprendre un peu plus, parce que moi, quand c'est arrivé, c'est quand cette femme-là était décédée en 2011, à peu près, 2012, c'est ce qui m'avait donné envie de faire de la vulgarisation scientifique. Là, peu après, j'ai commencé à faire de la vulgarisation. Donc, ça a commencé comme ça, puis ensuite, ben, il y a eu d'autres saisons, mais ça, c'était même pas prévu, mais j'ai continué dans cette lignée-là. Là.
En fait, c'est une balado qui est fascinant parce qu'on apprend des choses, en fait, puis il y a beaucoup de recherches. Mais moi, je veux dire que la dernière saison m'a particulièrement interpellé, puis je pense qu'elle interpelle beaucoup des gens qui écoutent cette émission et cette balado. Elle parlait, entre autres, des négationnistes du VIH. Alors, qu'est-ce qui a motivé ton choix de sujet?
Oui, c'est ça. Ben, en fait, il y a comme deux choses qui se sont produites. Hein. Premièrement, la pandémie de la COVID-19 nous a tous et toutes exposés là, à toutes sortes de théories du complot, finalement, des choses que la plupart des gens, même moi, pour être tout à fait honnête, on n'était pas nécessairement très connaissant là-dessus. Moi, je savais que c'était quelque chose qui existait un peu, que c'était marginal, mais je n'avais jamais vraiment passé beaucoup de temps là-dessus. Puis je pense que la pandémie nous a comme forcé à être exposés à ce genre de théorie là, où il y aurait des forces massives qui seraient organisées, qui œuvrent en secret pour contrôler toutes sortes de choses sur la planète. Puis en parallèle avec ça, bien, il y a eu le décès de Bernard Lachance. Donc, chanteur québécois qui est décédé justement parce qu'il ne croyait pas au sida ou en fait, il pensait qu'il n'avait pas besoin de se soigner avec des médicaments. Fait que moi, c'est sûr que comme pharmacien, ça m'a profondément bouleversé, cette histoire-là. Puis on dirait que je voyais des liens entre la pandémie, Bernard Lachance. En plus, je voyais, en fouillant un peu, j'ai remarqué que ses influences à lui, c'était des personnes très crédibles, là, que les personnes qui diffusaient ces idées-là, c'était souvent des scientifiques et des professionnels de la santé. Donc, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose sur le dénialisme du VIH, puis j'ai voulu en apprendre plus.
L'histoire de Bernard Lachance, quand même, qui nous a beaucoup touché tout le monde, parce qu'il est vraiment mort, hein, le diagnostic, il est mort d'une infection qui était due au sida, qui n'aurait pas dû arriver s'il avait pris ses médicaments. L'histoire, donc, commence avec Bernard Lachance, mais là, on continue, puis on découvre les ramifications qui vont jusqu'à une certaine Guylaine Langteau. Est-ce qu'on peut en parler de ce cas-là un petit peu?
Ben oui. En fait, Guylaine Langteau, moi, je ne la connaissais pas. Là. J'ai appris son existence quand Bernard Lachance est décédé parce que lui, il la citait comme une de ses inspirations principales. Donc, elle, c'est une médecin que, au moment où moi, j'ai commencé à... au moment où, avant que je commence à travailler sur le balado, quand on lisait sur elle, ce qu'on lisait, c'était qu'elle avait été une sommité dans son domaine, donc dans le domaine de la phlébologie, là, qui est le traitement des varices, qu'à un moment donné, il s'était passé quelque chose, on ne sait pas quoi, qui fait qu'elle est devenue une des leaders de différents mouvements conspirationnistes, donc anti-vaccins, dénialistes du cancer, dénialistes du VIH. Puis moi, je trouvais que c'est cette espèce de dichotomie-là, là, tu sais, de quelqu'un qui passe d'une sommité dans son domaine à quelqu'un qui remet en doute des choses extrêmement bien établies. Là. On dirait que je ne comprenais pas ce changement-là. Tu sais, comment est-ce qu'un médecin passe d'un extrême à l'autre comme ça? Donc, à travers mes recherches, je l'ai utilisé comme un cas de figure, dans le fond, Guylaine Lanctot. Je me suis dit, ben, si je comprends ce qui lui est arrivé à elle, peut-être que ça va m'aider à comprendre un peu mieux ce qui arrive à d'autres scientifiques. Parce qu'encore une fois, le dénialisme du VIH, ça a été beaucoup, beaucoup véhiculé par des scientifiques, des chercheurs, chercheuses, souvent de haut niveau. Donc, je me suis dit, ben, je vais utiliser le cas de Guylaine Lanctot comme un cas de figure, finalement, pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui fait qu'un scientifique peut dériver à ce point-là.
Et puis je pense que je veux pas trop divulgâcher ce qu'il y a dans la balado, mais on apprend beaucoup de choses sur ces gens-là aussi et sur le fait que souvent, c'est des gens qui ont une spécialité, mais ils commencent à se rendre experts dans tout et c'est là que ça devient problématique.
Oui, oui, oui. Ça, c'est une des raisons, absolument. Là, tu fais bien de le mentionner. Là. Effectivement, donc, par exemple, si on prend Guylaine Lanctot, c'était même pas une médecin de famille parce qu'elle n'a jamais vraiment pratiqué comme omnipraticienne. Tu sais, elle a gradué comme médecin, ensuite elle s'est dirigée dans les cliniques de phlébologie. Elle faisait de la médecine esthétique là, essentiellement. Là. Donc, elle faisait des traitements qui étaient pour des varices les traitements n'étaient pas médicalement nécessaires. Donc, elle faisait vraiment de la médecine esthétique. Et là, tout d'un coup, commence à nous sortir un argumentaire sur les vaccins, sur le VIH, sur le cancer. Donc, évidemment, il n'y a rien de tout ça qui est dans son champ d'expertise. Puis je pense que la plupart des gens dans le public ne sont pas nécessairement... Ils pensent, les gens ne pensent pas à ça. Puis je comprends, là, je ne blâme aucunement les gens de ne pas y penser, mais un médecin, ce n'est pas un expert de toutes les maladies. Là. Un médecin, ça connaît les maladies en général. Puis ça fait en sorte qu'un médecin, ça peut se tromper sur plein d'affaires. Donc, il y a plein d'autres exemples dans le domaine du VIH. Je veux dire, si on prend par exemple... Une des personnes qui a été les plus importantes dans les théories dénialistes, c'est Peter Duisberg, qui est un Américain. Lui, c'était un chercheur sur le cancer à la base. Et là, tout d'un coup, il a commencé à développer ses propres hypothèses sur le sida, mais c'était pas un expert des virus, c'était pas un expert du sida. Donc ça, c'est une des grandes raisons qui fait que des scientifiques peuvent partir dans une voie et être complètement dans l'erreur.
Ben, finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure sur le VIH? Là? Je pense qu'on va dire les vraies choses. Ça existe vraiment. Hein? Oh, je pose la question, c'est un peu niaiseux, là, mais je pense qu'il faut le dire. Là, ça existe vraiment.
Ben oui. Puis il faut comprendre là, que la recherche, là, puis la médecine, puis tout ça, c'est pas quelque chose qui se construit en quelques années. Là. C'est vraiment là, des décennies de recherche. Puis à un moment donné, ben, quand tu as des équipes de recherche qui travaillent partout dans le monde, en même temps, tu as des centaines, des milliers d'équipes de recherche qui travaillent sur un sujet, donc dans ce cas-ci, le VIH, le sida, qu'est-ce qui cause ça, d'où ça vient, c'est quoi l'évolution de la maladie. Ben, à un moment donné, on se rend compte là, qu'on a des décennies de recherche, on a des milliers de recherches, puis toutes ces recherches-là convergent toutes dans la même direction. Puis le VIH et le sida, la réalité, c'est que c'est pas controversé sur le plan scientifique. Là. On sait très bien que oui, c'est le VIH, c'est le virus qui cause le sida. On sait très bien que les traitements qui sont à faire sont absolument, absolument essentiels. On connaît la pathophysiologie de la maladie. On sait comment le virus fait son chemin dans le corps, comment est-ce qu'il crée les maladies. Je veux dire, on a les études génétiques où on est capable de remonter jusqu'à l'origine pour savoir d'où vient ce virus-là. On sait que ça vient de l'Afrique, ça vient probablement du singe. On a tellement de recherches là-dessus que de remettre ça en doute, de remettre en doute l'existence du sida, mais aussi de dire que les traitements ne sont pas bons ou encore qu'en mangeant mieux, on va comme être capable de guérir du VIH. Il n'y a absolument aucun fondement scientifique pour dire des choses comme ça. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute que tout ça, ça pourrait être vrai. Là. Ça, c'est vraiment, vraiment important de le mentionner.
Et que dis-tu aux gens qui, comme moi, je le dis parce que c'est ouvert, je l'ai dit depuis longtemps, je vis avec le VIH depuis 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'on dit à des personnes comme moi là, qui peut-être même pas dans mon cas, mais qui doutent après avoir entendu les commentaires, ce que disait Bernard Lachance il y a quelques années, puis qui remettent en doute leur traitement.
Bien, moi, je comprends pourquoi les gens en doutent, premièrement, parce que, puis en général, là, je parle de toutes les croyances par rapport à la science puis la santé, mais si on regarde Bernard Lachance, par exemple, moi, je le comprends de s'être fait avoir. T'sais. Puis c'est vraiment triste, son histoire, parce que lui, il écoutait des scientifiques qui avaient souvent des doctorats, qui étaient des directeurs de centres de recherche, t'sais, des gens qui avaient une grande réputation, même des gens qui avaient gagné des prix Nobel dans certains cas, et ces gens-là remettaient en doute le VIH puis le sida. Donc, moi, je le blâme pas de s'être fait avoir. Le problème avec Bernard, puis avec d'autres personnes aussi, c'est qu'ils vont écouter une poignée de scientifiques. Donc, ils vont en écouter 3, 4, 5, puis ils vont pas regarder ce que 99,99999% des spécialistes disent. C'est les vrais spécialistes. Donc, ils vont écouter 2, 3, 4 personnes que c'est pas leur champ d'expertise. Puis ça, c'est un piège dans lequel tout le monde peut tomber. Tu sais, je veux dire, moi, je pourrais tomber là-dedans si je faisais pas attention parce que j'ai pas tous les champs d'expertise. Je suis juste un pharmacien généraliste. Donc, je pense qu'il faut donner de l'empathie, premièrement, au public qui sait plus trop, qui a de la difficulté à s'y retrouver par rapport à toute l'information qui est disponible. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi maintenir un niveau de confiance en, comme je disais, toute la recherche qui a été faite, les groupes de recherche indépendants qui se sont penchés là-dessus. Tu sais, pour moi, la lecture est claire. Tu sais, il n'y en a pas de controverse par rapport au VIH. Il n'y a aucune spécialiste sérieux qui pense qu'il y a un quelconque doute à ce niveau-là. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est correct de douter, c'est correct de se poser des questions. Puis je pense que ça prend de la vulgarisation aussi. Tu sais, ça prend des personnes qui, à un moment donné, vont expliquer les choses. J'ai essayé de le faire modestement, tu sais, dans cette saison-là de dérive, mais tu sais, ultimement, je pense que c'est ça. Il faut que les gens soient capables de voir à un moment donné, bien, un peu là, où est-ce que je vais chercher mon information, puis qui est digne de confiance là-dedans.
Il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même juste une petite question. Comment tu as vécu les réactions? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ton travail sur la suite de la diffusion de dérive.
Ah, pas vraiment, en fait. C'est non, vraiment, puis j'ai été surpris. La réponse est unanimement positive, là, vraiment.
Je pensais plus aux gens du côté des complotistes, ils ne se sont pas mis à l'attaque.
Probablement, mais tu sais, l'affaire, c'est que je passe pas beaucoup de temps à regarder ce qui se dit sur ces groupes-là, parce que, tu sais, ultimement, je veux dire, c'est pas très utile. Tu sais, je veux dire, moi, lire des pages et des pages de commentaires de gens qui m'insultent puis qui disent que je suis corrompu, puis tu sais, c'est sûr que c'est tout le temps les mêmes arguments qui reviennent, hein. C'est, tu sais, lui, on sait bien, il est vendu à l'industrie pharmaceutique, ou tu sais, moi je suis complètement indépendant, j'ai aucune affiliation par rapport à personne. Tu sais, le travail que je fais, je le fais avec rigueur. Donc à un moment donné, tu sais, je regarde pas ce que ces gens-là disent. J'ai vu des choses passer. Mais je pense qu'en bout de ligne, j'ai reçu quand même beaucoup de commentaires de gens qui m'ont dit « Hey, sais-tu quoi? Moi, j'ai commencé l'écoute en étant sceptique. » Il y a des gens qui m'ont dit « Moi, j'avais des gros doutes par rapport au sida, par rapport à d'autres sujets aussi dont je parle dans la saison, tu sais, par rapport au vaccin, cancer, peu importe. » Puis qui m'ont dit « Ça m'a vraiment fait réfléchir. » Donc, que des gens ne soient pas contents de la série, moi, je ne peux rien faire pour ça. Tout ce que je peux faire, c'est faire le meilleur travail possible. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça les avait vraiment amenés dans une piste de réflexion, puis qu'ils sont en train de remettre certaines choses en doute, puis peut-être justement le reconsidérer certaines croyances alternatives qu'il y avait. Puis moi, ça, c'est le plus beau cadeau que je peux avoir. Si je peux juste avoir une influence positive sur une personne, honnêtement, c'est déjà pour moi, ça. C'est extraordinaire. Là.
C'est déjà ça. Olivier Bernard, donc je rappelle que la série de balado Dérive est disponible sur la plateforme Audio de Radio-Canada, O-H-D-I-O, et il y a 3 saisons. Je recommande d'écouter les 3, mais surtout la dernière. Merci beaucoup encore, Olivier.
Merci beaucoup pour l'entretien. C'est vraiment gentil.